Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, dirigé par Michel Izard et Pierre Bonte. Le Dictionnaire de Ethnologie et de Anthropologie est un ouvrage collectif de référence consacré au langage, aux traditions intellectuelles et au terrain de ces disciplines. Publié initialement en 1991 aux presses universitaires de France, il ne se réduit pas à un lexique de définition brève. Il organise un vaste état des savoirs en reliant notions, auteurs, domaines culturels et problèmes de méthode. Son ambition est de rendre lisible la manière dont les anthropologues construisent leurs objets de recherche et interprètent les formes de la vie sociale. Le livre rassemble des articles sur les grands courants de la discipline, sur ses concepts opératoires et sur de nombreuses figures majeures, avec 94 entrées biographiques signalées dans les présentations de ouvrages. Il vise ainsi autant la consultation ponctuelle que la formation intellectuelle, par son ampleur et par la qualité de ses collaborateurs. Ce dictionnaire éclaire les débats qui ont structuré la tradition anthropologique française, tout en ouvrant sur la diversité des sociétés étudiées. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un dictionnaire conçu comme cartographie intellectuelle de la discipline. La fonction principale de l'ouvrage est de donner une structure intelligible à un champ de savoir particulièrement vaste. Ethnologie et anthropologie couvrent en effet des sociétés, des périodes, des institutions et des méthodes très différentes. Un simple répertoire de mots ne suffirait donc pas à orienter le lecteur. Le dictionnaire relie les termes à des traditions de recherche et à des usages analytiques, afin de montrer que les concepts ne sont jamais de simples étiquettes. Ils servent à sélectionner des faits, à comparer des formes sociales et à formuler des interprétations. Cette architecture permet de comprendre que les frontières entre ethnologie, anthropologie sociale, études des techniques, parenté, religion ou système symbolique ont été historiquement discutées. Le titre associe de façon délibérée deux désignations proches mais non parfaitement équivalentes. Cette association reflète un domaine où les appellations, les objets et les méthodes ont varié selon les écoles nationales et les moments de la recherche. Pour un lecteur, la valeur pratique du livre tient à cette mise en relation. Une entrée consultée pour résoudre une difficulté terminologique peut conduire vers des débats plus larges sur la comparaison, le terrain ou la théorie sociale. Le volume devient ainsi un instrument de repérage raisonné plutôt qu'un manuel qui imposerait une définition unique de la discipline. Deuxièmement, les concepts comme outils pour analyser les réalités sociales. Le dictionnaire met au premier plan le vocabulaire analytique par lequel les chercheurs décrivent et organisent les réalités sociales. Cette orientation est essentielle, car les termes de anthropologie portent souvent une histoire théorique et des implications méthodologiques. Des notions telles que culture, mythe, parenté, échange, rituel ou technique ne désignent pas seulement des objets observables. Elles orientent une enquête vers certaines relations, certaines règles ou certains systèmes de signification. Le livre aide donc à distinguer le langage courant du langage spécialisé, sans faire croire que les catégories savantes sont neutres ou universelles. Comprendre un concept implique de voir quel problème il permet de poser, quelle comparaison il rend possible et quelles limites il peut rencontrer. Cette dimension explique le caractère analytique du projet éditorial. Les anthropologues affrontent la diversité des institutions et des pratiques avec des outils de classement, de description et interprétation. Les articles permettent de situer ces outils dans leur contexte de formation et de discussion. Pour les étudiants, cet apport est concret, il favorise une lecture plus précise des textes et évite de confondre une notion avec une évidence du sens commun. Pour les lecteurs déjà formés, il offre un moyen de vérifier les filiations et les déplacements de sens. La consultation devient ainsi une initiation aux exigences du raisonnement comparatif. Troisièmement, les notices sur les auteurs replacent les théories dans leur histoire. La présence de 94 entrées consacrées à des ethnologues et anthropologues donne au volume une forte dimension historiographique. Les théories ne sont pas présentées comme des systèmes abstraits apparus sans contexte. Elles sont rapportées à des chercheurs, à des œuvres et à des moments de transformation de la discipline. Cette approche est particulièrement utile pour saisir pourquoi certains problèmes ont acquis une importance durable, la définition de la culture, les règles de parenté, les formes religieuses, les systèmes symboliques ou les effets de la colonisation sur les conditions de enquête. Les contributions signalées de spécialistes reconnus, notamment autour de figures comme Franz Boas ou Edmund Leach, renforcent la portée de cet ensemble. Le lecteur peut identifier des continuités, mais aussi des désaccords entre écoles et générations. Une notice biographique ne sert donc pas seulement à mémoriser une date ou un nom. Elle permet de comprendre comment une orientation intellectuelle se forme, quels matériaux elle mobilise et quels débats elle suscite. Dans le contexte français, le dictionnaire donne une place perceptible aux approches structuralistes, tout en réunissant des compétences relevant de domaines variés, dont études des techniques. Cette pluralité ne supprime pas les orientations éditoriales, mais elle rend visibles les tensions constitutives de la discipline. Le livre invite ainsi à lire les auteurs de manière critique, en associant leurs concepts à leurs choix de méthode et à leurs héritages. Quatrièmement, une ouverture conjointe sur les aires culturelles et les objets de enquête, le projet ne privilégie pas uniquement les débats théoriques. Il propose également une présentation des grandes aires culturelles et des principaux domaines étudiés par ethnologie et anthropologie. Cette double entrée est importante, car une discipline comparative doit éviter deux écueils opposés. Elle ne peut réduire les sociétés à des exemples illustrant une théorie générale. Mais elle ne peut pas non plus juxtaposer des descriptions locales sans outils permettant de les mettre en relation. Le dictionnaire donne au lecteur des repères pour comprendre comment les recherches articulent des contextes culturels précis et des questions plus générales. Les thèmes liés à la maison, aux techniques, aux institutions, aux croyances ou aux formes de sociabilité montrent que les objets anthropologiques traversent la vie collective dans son ensemble. Leur étude demande de considérer les usages, les catégories locales, les relations de pouvoir et les formes de transmission. Cette orientation est particulièrement utile pour situer un texte ou préparer une recherche documentaire. Plutôt que de chercher une image fixe d'une population ou d'une région, le lecteur est conduit à interroger les conditions dans lesquelles un savoir est produit. Il peut aussi mesurer la diversité des angles adoptés selon les objets. Une étude des techniques ne pose pas les mêmes questions qu'une analyse de la parenté. Même si toutes deux peuvent éclairer la manière dont une société organise ses relations et ses significations. En dernier lieu, un bilan savant marqué par les débats de la tradition française, paru dans sa première édition en 1991, le dictionnaire constitue aussi un bilan de discipline à un moment donné. Son intérêt ne consiste pas à offrir une vision intemporelle et parfaitement neutre de l'anthropologie. Comme tout ouvrage de synthèse, il sélectionne des notions, des auteurs et des priorités. Des comptes rendus ont relevé le poids de perspectives, proches du structuralisme dans certains articles, notamment lorsque sont abordés le mythe, la culture ou histoire de l'anthropologie. Cette caractéristique doit être comprise comme une information sur le paysage intellectuel de l'ouvrage, et non comme une raison de écarter sa consultation. Elle permet au contraire de lire le volume avec discernement, en identifiant les traditions qui y sont particulièrement valorisées. Sa richesse collective empêche toutefois de le réduire à une seule école. La diversité des collaborateurs et la présence de domaines spécialisés élargissent son horizon. Pour le lecteur contemporain, cette historicité est formatrice. Elle apprend que les classifications savantes évoluent, que les termes changent de portée et que les désaccords théoriques font partie du travail scientifique. Le dictionnaire reste donc précieux à condition de ne pas le traiter comme une autorité définitive sur toutes les sociétés ou toutes les controverses actuelles. Il fournit des fondations solides pour comprendre les textes classiques, retracer les généalogies conceptuelles et comparer des approches. Les recherches plus récentes peuvent ensuite compléter ce cadre sur les enjeux postcoloniaux, les transformations contemporaines et les nouvelles orientations de enquête. En conclusion, ce volume convient en premier lieu aux étudiants en sciences humaines qui doivent acquérir un vocabulaire rigoureux et situer les auteurs souvent cités dans les cours de anthropologie. Il sera également utile aux enseignants, aux chercheurs travaillant dans des disciplines voisines et aux lecteurs curieux qui souhaitent dépasser une vision simplement descriptive des différences culturelles. Son bénéfice intellectuel principal est de faire comprendre que les notions anthropologiques sont des instruments de travail, elles guident observation, comparaison et interprétation, tout en demeurant liées à des débats historiques. La consultation de ces articles permet donc de préparer une lecture, de clarifier un terme ou de replacer une théorie dans son contexte, par rapport à un manuel introductif. Le livre se distingue par son format encyclopédique, par ampleur de ses entrées biographiques et par articulation entre concepts, auteurs, domaines de recherche et aires culturelles. Par rapport à un lexique spécialisé, il offre davantage de profondeur historique et théorique. Sa marque éditoriale, largement inscrite dans les débats de anthropologie française et attentive aux héritages structuralistes, constitue à la fois sa singularité et une invitation à la lecture critique. Il ne remplace pas les travaux récents sur les transformations de la discipline, mais il fournit une base particulièrement solide pour comprendre ses références majeures. Pour qui cherche un outil de consultation dense, savant et durable, il demeure une porte-entrée structurante dans les langages de ethnologie et de anthropologie. Si vous souhaitez soutenir Michel Izard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.